Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et bonjour à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Ici Bastien qui vous parle en ce beau mois d'avril 2019. Au programme aujourd'hui, je vous parlerai de Pokémon dans la section jeux vidéo. Ensuite, nous aborderons la saison 2 de One Punch Man dans la rubrique manga. Puis viendront les sorties en vrac et enfin les événements à venir pour mai. Et tout de suite, nous allons commencer la partie jeux vidéo avec Pokémon, l'histoire d'un phénomène. Depuis maintenant, le 27 février 2019, Nintendo va annoncer officiellement l'arrivée de la 8e génération de Pokémon avec les versions épée et bouclier prévues sur Nintendo Switch pour la fin d'année 2019. Depuis cette annonce, inutile de vous dire qu'à l'heure actuelle, les fans de la licence commencent déjà à émettre plusieurs théories sur les deux futurs jeux de Game Freak dans l'attente des prochaines informations concernant le développement du jeu. Aussi, à partir de maintenant, attendez-vous à ce que j'en parle prochainement dans les mois à venir concernant l'avancement de ces deux prochaines versions. Mais pour l'instant, j'aimerais vous poser une question suivante. Comment cette licence au succès encore plus lucratif et phénoménal que Star Wars a-t-elle pu voir le jour? Si vous ne le savez pas, alors commençons par le commencement. Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri, le directeur de Game Freak, en 1996, dans les séries de jeux Game Boy éditées par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. En effet, les jeux vidéo Pokémon jaune, rouge et bleu s'étant vendus à plus de 30 millions d'exemplaires chacun, il s'agit donc d'un des plus gros records de vente jamais établis dans l'histoire générale du jeu vidéo. Fier de ce succès de la franchise Pokémon, ce sera par la suite cette dernière qui sera également exploitée sous la forme d'animes, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Né à Tokyo et fils d'un père d'automobile pour Nissan et d'une mère au foyer, le petit papa de Pikachu faisait déjà une collection d'insectes alors qu'il n'était encore qu'un enfant, ce qui deviendra une source d'inspiration pour son travail dans le jeu vidéo beaucoup plus tard. Il était tellement intéressé par la collecte et l'étude des insectes qu'il hérita du surnom de Dr. Bugs par ses pairs, mais aussi par son entourage. Mais ça, c'est une autre histoire. Le plus important à retenir, c'est que durant sa période d'adolescence, Satoshi devint un vrai passionné de jeux d'arcade, ce qui le conduisit à vouloir créer lui-même des jeux vidéo. Après avoir démonté sa Famicom pour voir comment elle fonctionnait, il gagne un concours de création de jeux vidéo organisé par Sega à l'âge de 16 ans. Puis, les deux années complètes de formation qu'il suivit durant sa formation de programmeur au Tokyo National College of Technology afin d'obtenir un diplôme en électronique et informatique. C'est peu après ça que Satoshi créera son premier jeu, et oui, vous l'auriez bien compris, il s'agit bien sûr de Quinty. Mais quoi? Vous croyez vraiment que l'idée de créer Pokémon lui est venue comme ça du premier coup? Évitons de brûler les étapes, voulez-vous? Et en effet, dans les années 1980, Satoshi Tajiri crée avec ses amis le magazine de jeux Game Freaks. Parce que oui, avant d'être une boîte de jeux vidéo, Game Freak c'était avant tout une petite presse éditoriale japonaise branchée sur le gaming. Parce que finalement, ce fut en 1989 et plutôt, pour être plus précis, le 26 avril 1989, que Tajiri et ses potes fondèrent leur studio de développement de jeux vidéo, faisant passer Game Freak de l'état de presse à l'état de conception du jeu vidéo. Bien que tout peut déjà vous sembler bien en place, le chemin de Tajiri sur la création de Pokémon ne sera évidemment pas aussi simple, puisque ce ne sera qu'en 1991 que Tajiri découvrira la Game Boy de Nintendo. Quand il voit pour la première fois les câbles Link, câbles de connexion permettant à un jeu multijoueur entre deux Game Boy d'être interconnectés, imagina aussitôt des insectes qui rampaient le long de ces câbles. Ce fut à ce moment donné que Pokémon, le phénomène de toute une génération, allait naître dans son esprit. En effet, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés de près ou de loin au développement du premier jeu Pokémon, le jeu se basait au départ sur certaines idées de créatures issues d'un autre studio concevant les jeux de Nintendo. Ce fut donc après cela que Game Freaks, et plus précisément Tajiri, partit travailler pour Nintendo et continua de réfléchir au développement de ces insectes en devenant ami avec Shigeru Miyamoto, le créateur des séries Mario et Zelda. En effet, Miyamoto et Tajiri, Satoshi et Shigeru sont des noms par défaut sélectionnables par le joueur pour son personnage ou rival principal dans le jeu vidéo Pokémon Rouge et Vert. Plus tard, ces mêmes noms ont servi dans les versions japonaises du dessin animé Pokémon, où Sacha, inspiré par le nom du personnage jouable du jeu vidéo, est appelé Satoshi, et Regis, inspiré par le personnage rival du jeu vidéo, est appelé Shigeru. C'est ainsi que Satoshi Tajiri fit naître Pokémon, le véritable phénomène culturel qui, tel Ishkar, a conquis l'Europe et l'Amérique en un tour de main, en a fait de même avec la plupart du monde. Pokémon, comme les plus gamers d'entre vous le savent, a commencé sur Game Boy avec la G1, ou première génération de Pokémon, avec Pokémon jaune, rouge et bleu, puis a continué son chemin avec la G2 via les versions or, argent et cristal, puis sur Game Boy Color et Game Boy Advance avec la 3G, Ruby, Saphir et Emerald, puis sur Game Boy Advance, et j'en passe des vertes et des pas mûres, et bientôt, pour la fin de cette année, sur Switch, avec la nouvelle génération, la 8ème pour être exact, sur les versions épée et bouclier. Faisant ainsi passer la capture de 151 à actuellement 812 espèces Pokémon différentes, hors 8G inclus, ce qui signifie que janvier 2020, nous aurons donc passé le cap de plus de 900 Pokémon à capturer. Autant vous dire que ça fait beaucoup par rapport aux années 90. Hein. C'est tout pour cette section. Je vais maintenant vous laisser en compagnie d'une petite pause musicale et on revient après pour la rubrique manga.
Hi Bobby.
Hi Ken.
You wanna go for a ride?
Sure Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on Barbie, let's go party.
Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et bon retour à tous parmi nous. C'est votre animateur Bastien qui vous parle toujours présent. Et donc c'est parti pour la suite de notre émission Fréquence Geek avec la section manga. Et aujourd'hui ça va être dédié à la saison 2 de One Punch Man. En effet, cela faisait bien des mois que les fans s'impatientaient à cet instant, et finalement, le voilà enfin arrivé. Après la production d'une saison 1 comprenant 12 épisodes et 7 OAV en 2015, c'est en ce mois d'avril 2019 que la saison 2 de One Punch Man va marquer son entrée en scène. Il n'a pas un seul cheveu sur son crâne, on le surnomme le cheval à la cape, et pourtant, d'un seul coup, il lui suffit de se débarrasser de ses ennemis les plus coriaces. C'est en ce mois d'avril 2019 que Saitama, le super-héros le plus fort du monde, revient sur nos écrans. En compagnie de son élève Genos, le démon cyborg, ils vont en effet vivre de toutes nouvelles aventures dans One Punch Man saison 2 en simulcast gratuit sur la plateforme du site Internet ADN. A cette occasion, un tout nouvel antagoniste fera son apparition durant cette saison 2. Et il est bien sûr, comme les connaisseurs du manga le savent déjà, il s'agira de Garou, un ancien élève du super-héros martialiste Maître Bang. Garou est connu dans le manga pour vouer une haine sans limite contre l'association des héros. Pour beaucoup, Garou peut être considéré comme l'antithèse de Saitama en raison du fait que les deux personnages ont en commun une puissance extraordinaire, ou presque. Durant cette nouvelle saison, on verra également Orselan de nouveau prêter sa voix à Saitama dans la version française de la série. Le rappeur s'est d'ailleurs plié au jeu du quiz de One Punch Man dans une vidéo publiée sur la plateforme ADN spécialement à cette occasion. Pour rappel du synopsis, qui est le suivant, Saitama est à la base un jeune homme sans emploi, déprimé et sans aucun but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon avec un menton en forme de cul. Selon ses termes, Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans très sérieusement en faisant sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de course à pied au quotidien. À la fin de son entraînement, si intense qu'il en perce ses cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui une source de problèmes, puisqu'il ne trouve plus d'adversaire à sa mesure et s'ennuie dans son métier de héros car il ne combat aucun opposant qui peut véritablement lui ramener un challenge, voire une petite hausse d'adrénaline. Bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces, toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos, un jeune homme devenu cyborg. Du coup, avec cela, est-ce que Garou représentera un réel challenge pour notre cher Saitama? Pour le savoir, je vous invite à suivre cette nouvelle saison dès ce mois-ci sur le site ADN, à l'adresse suivante www.animedigitalnetwork.fr. Et c'est maintenant la fin de cette rubrique manga. Je vous laisse en compagnie d'une petite pause musicale et on revient après pour les sorties en vrac et les événements.
Thank you.
Et bon bonjour à tous, c'est toujours Bastien qui vous parle pour la suite de notre émission Fréquence Gaming. Et maintenant, on va s'attarder sur les sorties en vrac et on enchaînera directement sur les événements. On va tout de suite commencer dans la sortie en vrac avec Magic the Gathering, la guerre des Planeswalkers. Prévu pour ce mois d'avril 2019, la série de jeux de trading card game Magic the Gathering ou Magic l'Assemblée en français sortira sa nouvelle édition nommée La Guerre des Planeswalkers, qui reprendra l'histoire de Nicol Bolas là où elle s'était arrêtée durant la période d'Amonkhet, un monde axé sur la fantasy égyptienne. Et du coup, c'est quoi un Planeswalker ? Eh bien, avant de vous l'expliquer, il faut savoir que Magic l'Assemblée est un jeu de cartes ayant son propre lore et univers. En effet, l'histoire de Magic se passe dans un multivers chargé d'éthers qui permet la création des mondes qui le constituent, aussi appelés les plans. Dans le jeu, ces plans sont représentés par une édition de cartes tirées des différents éléments de l'histoire du lore qui les concernent, avec au beau milieu de la trame principale les Planeswalkers, des êtres capables de voyager à travers les différents plans et qui, roleplayment parlant, représentent donc les joueurs au cours de leur duel de cartes. Les Planeswalkers comptent parmi les êtres les plus puissants du multivers, ce qui veut dire que non seulement les joueurs incarnant eux-mêmes leurs Planeswalkers peuvent également invoquer d'autres Planeswalkers qui sont en général des personnalités importantes du lore représentées sous forme de cartes. Au niveau de l'histoire qui suivra la nouvelle édition Magic prévue dès le 27 avril de ce mois-ci, les joueurs se retrouveront embarqués sur l'achèvement de 10 années de complots et de manigances. Toujours en guerre contre les Planeswalkers, Nicol Bolas s'apprête donc à donner le coup final. Que Bolas ou que les Planeswalkers qui se sont rassemblés contre lui l'emportent, le multivers ne sera plus jamais le même. Rien qu'à ce résumé, on pourrait presque penser à voir venir plusieurs rééditions d'anciennes éditions de cartes pour qu'elles soient réadaptées au système moderne actuel du jeu après celle-ci. Cependant, un bon nombre d'informations restent à venir. Et le nombre exact de cartes délivrées reste encore incertain, bien que l'on ne sache déjà que la guerre des Planeswalkers devrait être des éditions dont les decks seront vendus par pack de 2 pour le prix de 22€, soit une valeur de 11€ par deck plus 2 boosters inclus. Et maintenant nous allons passer sur Dragon Ball Heroes World Mission. Sans doute l'un des jeux vidéo les plus désirés parmi les fans européens et américains de la franchise du manga culte de Akira Toriyama. En effet, c'est officiel, les fans de Dragon Ball situés hors Japon pourront enfin découvrir le multivers parallèle de la série Heroes, qui met en avant 1000 cartes virtuelles à collectionner et 350 nouvelles transformations de combattants inédits comme Son Gohan SSJ3 ou Vegeto SSJ4. Super Dragon Ball Heroes World Mission contient plus de 1000 cartes virtuelles et met en scène plus de 300 personnages de Dragon Ball, ce qui signifie que certains personnages disposent de plusieurs cartes à leur effigie et apparaissent sous forme de plusieurs sortes dans le jeu. Il est donc question de former le meilleur deck possible en tenant compte des capacités liées à chaque carte et des capacités des autres cartes qui se complètent entre les unes et les autres. Comme la plupart des jeux de type Training Card Game, certaines cartes sont complémentaires et débloquent des attaques spéciales uniquement utilisables lorsqu'elles sont associées à d'autres cartes bien précises. On peut également noter que le système de combat du jeu et les différences rente manière de placer et d'utiliser les personnages sur le champ de bataille semble aussi bien abouti. Le joueur doit donc y gérer l'endurance de ses personnages et il a la possibilité de privilégier la puissance d'attaque au détriment de cette même endurance. Il vous sera également question de prendre en compte les différents types de personnages, les stratégies à utiliser pour attaquer en premier et les moyens permettant de déclencher des attaques spéciales. Dans Super Dragon Ball Heroes World Mission, le gagnant est celui qui fait tomber à zéro l'énergie de l'équipe adverse. Enfin, les différents modes de jeu solo ou multijoueur, dont la campagne solo qui bénéficie d'une histoire inédite et qui met en scène de nouveaux personnages, est également très prometteuse pour ce qui est à venir dans le jeu vidéo. Initialement, Dragon Ball Heroes était à la base un jeu vidéo pour les bornes arcade modernes japonaises et non pour les consoles de type portable ou salon. Il est sorti le 11 novembre 2010, développé par Dimps, et jusqu'à été alors maintenant disponible qu'au Japon. En effet, les bornes d'arcade Dragon Ball Heroes sont principalement implantées dans les salles de jeu ou dans certains centres commerciaux du Japon. Il ne se joue qu'avec des cartes à collectionner et ces cartes possèdent des données de jeu, d'où leur nom Data Card DAS, dont la valeur à l'unité peut d'ailleurs se traduire en euros et se revendre très cher à l'unité en fonction de leur rareté, allant parfois de 50 voire à 100 euros alors qu'un booster de 15 cartes vaut seulement 3 euros en moyenne. Ce qui avec tout ça rendrait l'exploitation de la licence Heroes impossible en Amérique ou en Europe avant la venue de World Mission, qui propose l'utilisation de cartes dématérialisées. Pour rappel, Super Dragon Ball Heroes World Mission est disponible depuis le 5 avril sur Switch ainsi que sur PC via Steam au prix moyen de 50€ dans tous les points de vente participants. Mortal Kombat 11. Depuis l'annonce générale de Mortal Kombat 11 en janvier dernier par NetherRealm Studio, les amateurs de baston et d'hémoglobine ont fini par arrêter de se frotter leurs mains pour venir pour enfin pouvoir prendre les commandes et poser un pied dans l'arène. MK11 est-il à la hauteur de nos attentes ? Voici plusieurs éléments de réponse à seulement quelques rondes du 23 avril 2019, date de sortie du mois de ce jeu de combat à la saga faramineuse. Une fois encore, la campagne solo s'annonce riche en contenu et en rebondissements et revisite les 26 années de la saga par le biais d'un twist scénaristique temporel, tout en copiant la narration de ces années sans réellement innover afin de permettre une portabilité compatible avec la Switch. Depuis la sortie d'Injustice 2, qui mettait en scène des super-héros de DC Comics, on pourrait également constater que les studios de développement ont bien progressé dans ce sens-là. Mais que la véritable révolution de cet opus semble plutôt se trouver dans la refonte totale du système de super plutôt qu'autre chose. En effet, la défense et l'attaque possèdent enfin leurs jauges respectives, ce qui ajoute une dimension tactique non négligeable au combat, mais bien sûr sans oublier les incontournables fatalités qui répondent à l'appel avec l'envie de surprendre, émerveiller et choquer l'auditorium avec des DLC prévus pour enrichir tout ça. Mortal Kombat sera donc disponible dès le 23 avril du mois au prix moyen de 45€ pour la Switch et de 55€ pour les autres supports PS4, Xbox et PC. Vous devrez cependant compter un ajout de 20€ si vous visez l'achat de l'édition collector de MK11 disponible à sa sortie dans tous les points de vente de jeux participants. Et maintenant, nous allons passer directement sur la partie événements et on va commencer avec la convention de la Japan Nantes. Organisée par le club ancien de Polymanga de l'école d'ingénieurs de l'université de Nantes, Polytech Nantes, maintenant devenue l'association Japan Nantes, ce salon s'inscrit dans un projet d'études et a pour principal but de pouvoir établir un salon d'étudiants et réguler la culture japonaise dans la région nantaise. Vous pourrez donc y trouver des exposants, des animations et bien plus. Japan Nantes se déroulera à la salle de la carrière située dans la rue du souvenir français de la ville de Nantes. Les accès sur le salon sont libres et une fois que vous êtes rentré, vous pouvez entrer et sortir de celui-ci comme bon vous semble, à condition bien sûr de ne pas perdre votre billet d'entrée. Hein. Cependant, je me dois aussi de vous faire part également de remarquer que la capacité du bâtiment en lui-même est toutefois très limitée. En effet, en cas de forte affluence, les entrées du salon peuvent être bloquées temporairement en plus d'un empêchement à l'accès du nouveau salon de cette année si vous vous ramenez aux heures de pointe. Les salons de la convention se tiendront le samedi 11 et le dimanche 12 mai de 10h à 18h au tarif de 8€ la journée et 14€ le week-end complet à l'entrée et de 7€ la journée et de 12€ le week-end en pré-vente sur le site internet blog.japonnantes.com. Geek Day Lille. L'événement Geek Day Lille est un événement qui a lieu à Lille dans le 59 au Grand Palais. Cette convention est une série de festivals se déroulant principalement dans le nord-ouest de la France, plus particulièrement dans les villes de Lille, Rennes et Rouen. Les Geek Days sont des conventions donc dédiées au manga, cosplay, jeux vidéo, comics et la science-fiction. Ce sera donc l'occasion de découvrir ces univers via les invités, des ateliers et des animations à ne pas manquer. Au programme, combat au sabre laser, exposition des différents véhicules issus des films Harry Potter, de l'expérience VR et bien plus encore à voir sur place. Dates de l'événement se dérouleront du samedi 18 au dimanche 19 mai de 10h à 19h sans interruption. Il proposera également une ouverture à 9h sur les possesseurs des passes VIP et Express. Pour plus d'informations sur les ventes et les réservations, rendez-vous sur le site www.geek-day.com. Et enfin, nous parlerons de la Japan Touch, se déroulant au parc des expositions Euro Expo Lyon Chasseux le 4 et le 5 mai 2019. La Japan Touch à Roux est un festival printanier organisé par l'association ASICS Expo. Il s'agit donc, au même titre de la Japan Expo Sud, une extension de la Japan Touch normale de Lyon. La seule différence étant que la version Haru, qui d'ailleurs, comme son nom l'indique, est la prononciation japonaise de la saison du mois de mai, se déroule durant le printemps et non vers la fin d'année actuelle comme à son habitude. Pour plus de détails et d'informations, consultez fréquemment leur site internet japontouch-haru.com car d'autres informations sur les tarifs, les tickets d'entrée, les programmes et les exposants seront à venir progressivement. Et c'est donc la fin de notre émission. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain Fréquence Geek. Ciao.
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.